Somnifère, le podcast.
Resto, théâtre, café, musée, ciné, nous sommes enfin libres. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 20 mai et Somnifère vous propose ce soir une séance de relaxation pour bien finir la semaine et se préparer à profiter d'un premier week-end sans restrictions. Et juste après cela, l'histoire du fils d'un riche marchand qui a dilapidé toute sa fortune et décide de parcourir le monde pour raconter des histoires. C'est un conte d'Anderson intitulé « Le coffre volant ». Un bonne nuit tout spécial ce soir à Karine Dumont et Célia d'Issy-les-Moulineaux et merci d'avoir partagé Somnifère dans votre story Instagram. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit, un excellent week-end et maintenant place à notre séance de relaxation.
La séance de relaxation.
Le week-end est bientôt là, les lieux de culture ont rouvert, les terrasses également. L'été approche, la vie semble retrouver un semblant de normalité, et ça nous donne déjà une bonne raison d'être heureux. Vous avez peut-être décidé d'aller au musée, au cinéma, au théâtre, au resto. Peut-être attendez-vous qu'il y ait moins de monde, mais la perspective de reprendre une vie normale est un vrai soulagement et je vous propose qu'on en profite un maximum. Mettez complètement de côté votre quotidien, votre journée, fermez le livre de votre vie et préparez-vous à déconnecter. Prenez un moment pour tourner votre attention sur votre corps, de la tête aux pieds, en vous assurant que chacun de vos muscles est détendu. À présent, portez votre attention sur les parties de votre corps que je vais citer, en prenant quelques secondes pour les relâcher complètement une par une, à mesure que je prononce le mot « relâche ». On commence par les orteils qui se relâchent. La plante des pieds se relâche. Les chevilles se relâchent. L'ensemble de vos deux pieds est maintenant complètement relâché. Vos mollets se relâchent. Vos genoux se relâchent. Vos cuisses se relâchent. Vos fesses et votre région pelvienne se relâchent. L'ensemble de vos deux jambes se relâche. Vos hanches se relâchent. Prenez quelques secondes pour porter votre attention sur le bas de votre corps qui est complètement relâché et notez comme c'est agréable. Prenez une grande inspiration et à l'expire, sentez toutes les émotions indésirables accumulées pendant la journée se libérer, vous laissant encore plus calme et détendu. Portez maintenant votre attention sur votre ventre qui se relâche. Votre poitrine se relâche. Le bas de votre dos se relâche. La détente se propage maintenant dans l'ensemble de votre dos, vertèbre par vertèbre, jusqu'à vos trapèzes qui se détendent également et qui se relâchent. C'est maintenant le tour de vos épaules qui s'affaissent complètement et se relâchent de tout leur poids. Votre nuque et votre cou se relâchent. Votre tête est lourde dans l'oreiller et à son tour se relâche. L'espace entre vos deux sourcils se relâche. Votre mâchoire se relâche. Vos paupières sont confortablement posées sur vos yeux, sans tension, et votre front se déplisse. C'est maintenant au tour de votre cuir chevelu de se détendre complètement et de se relâcher. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche à votre rythme. Prenez un instant pour profiter de cette détente du corps qui se transforme en détente de l'esprit. Notez le mouvement de votre poitrine qui monte à l'inspire et redescend à l'expire. Comme c'est apaisant et réconfortant. Sentez comme à chaque expire, vous semblez être de plus en plus détendu. Concentrez simplement votre attention sur votre respiration pendant quelques instants, sans être en attente de quoi que ce soit, en étant tout simplement présent, déconnecté du monde. Vous êtes calme et détendu.
L'histoire du soir.
Hans Christian Andersen, le coffre volant. Il était une fois un marchand si riche qu'il aurait pu paver toute une grande rue et encore une petite de pièces d'argent. Mais il avait bien garde de le faire, il savait mieux employer sa richesse. Il ne dépensait un sou qu'avec la certitude de gagner un écu. C'était un marchand bien habile, et tel il mourut. Son fils hérita de tout cet argent, il mena joyeuse vie, alla tous les soirs au bal masqué, fit des cerfs-volants avec des billets de banque, et s'amusa à faire des ronds dans l'eau en y jetant des pièces d'or, comme un autre des cailloux. De cette manière, il ne faut pas s'étonner s'il vint à bout de ses trésors et s'il finit par n'avoir pour toute fortune que 4 sous. Pour garde-robe, qu'une paire de pantoufles et une vieille robe de chambre. Tous ses amis, ne pouvant plus se montrer dans la rue avec lui, l'abandonnèrent à la fois. Un d'eux néanmoins eut la bonté de lui envoyer un vieux coffre avec ces mots. « Fais ton paquet. » Certes, le conseil était bon, mais comme le pauvre garçon n'avait rien à emballer, il se mit lui-même dans le coffre. Ce coffre était bien bizarre. En pressant la serrure, il s'enlevait dans les airs comme un oiseau. Le fils du marchand, dès qu'il eut connaissance de cette propriété merveilleuse, s'envola par la cheminée vers les nuages et alla toujours devant lui. Le coffre craquait, il eut peur qu'il ne se brisât en deux et ne lui fit faire un saut terrible. Cependant, il arriva sain et sauf dans le pays des Turcs. Après avoir caché son équipage dans la forêt sous les feuilles sèches, il se rendit à la ville. En parcourant les rues, il rencontra une nourrice et un petit enfant. « Nourrice turque, demanda-t-il, quel est ce grand château près de la ville dont les fenêtres sont si hautes ?»« C'est la demeure de la fille du roi, répondit la nourrice. On lui a prédit que son fiancé la rendra bien malheureuse. C'est pourquoi personne ne peut l'approcher qu'en présence du roi et de la reine. « Merci, dit le fils du marchand. Puis il retourna dans la forêt, se plaça dans le coffre et prit son vol. Bientôt, il arriva sur le toit du château et se glissa par la fenêtre dans la chambre de la princesse. La princesse sommeillait sur un sofa. Elle se réveilla tout effrayée, mais il lui affirma qu'il était le dieu des Turcs, descendu du ciel en sa faveur. Cette déclaration la rassura aussitôt. Assis près d'elle, il commença à lui raconter des histoires merveilleuses, celles du petit rossignol, de la petite sirène, de la reine de la neige et de la mère gigogne. La princesse était enchantée de tous ces beaux contes et elle lui promit de ne pas prendre d'autre mari que lui. « Revenez samedi prochain, dit-elle, j'ai invité le roi et la reine à un thé, ils seront fiers de me faire épouser le dieu des Turcs. Mais ayez soin surtout de leur raconter quelques belles aventures. Ma mère aime le genre moral et sérieux, mon père, lui, préfère ce qui est joyeux et plaisant. Soyez tranquille, ma corbeille de noces ne sera remplie que d'aventures. » Ils se séparèrent et la princesse lui fit cadeau d'un sabre incrusté de pièces d'or, qui certes lui arrivait à propos. Il courut s'acheter une nouvelle robe de chambre, puis il s'assit dans la forêt pour inventer quelque histoire. D'abord, Il éprouva beaucoup de difficultés, car ce n'est pas chose facile que de faire des comptes, mais enfin il réussit et le samedi suivant il était prêt. Le roi, la reine et toute la cour étaient venus prendre le thé chez la princesse. Le fils du marchand y fut reçu avec la plus grande amabilité. « Veuillez nous raconter quelque aventure, » dit la reine, « quelque chose de sensé et d'instructif. » « Ou quelque chose qui fasse rire, » ajouta le roi. « Avec plaisir, » répondit le jeune homme. Et il raconta ce que vous allez entendre. Il y avait un jour un paquet d'allumettes extrêmement fiers de leur haute naissance. Leur souche, c'est-à-dire le grand sapin dont chacune d'elles représentait un fragment, avait été jadis un des arbres les plus considérables de la forêt. Les allumettes étaient placées dans la cuisine, entre un briquet et un vieux pot de fer, à qui elles racontaient l'histoire de leur enfance. « Oui, disait-elle, lorsque nous étions une branche verte, nous étions heureuses comme au paradis. Tous les matins et tous les soirs, on nous servait du thé de diamant, c'était la rosée. Toute la journée, nous avions le soleil, lorsque le soleil brillait, et les petits oiseaux nous chantaient des histoires. Aussi, nous étions bien riches, car les autres arbres ne portaient de vêtements que dans l'été. Mais notre famille avait les moyens de nous donner des habits verts, en hiver comme en été. Vint une grande révolution, et notre famille fut dispersée par les bûcherons. Notre souche obtint une place de grand mât sur un vaisseau magnifique capable de faire le tour du monde. D'autres branches obtinrent d'autres emplois, et notre partage fut celui d'éclairer la multitude. C'est ainsi que, malgré notre origine distinguée, nous nous trouvons dans la cuisine. Quant à moi, dit le pot de fer, mon sort est tout différent. Dès que je suis venu au monde, on n'a fait que m'écurer, me mettre sur le feu et m'en ôter. Je suis de la plus haute importance dans la maison et je ne donne que dans le solide. Mon seul plaisir consiste, après le dîner, à reprendre propre et luisant ma place sur la planche et à causer sérieusement avec mes camarades. Malheureusement, nous sommes toujours claquemurés ici, à l'exception du seau d'eau qui quelquefois descend dans la cour. Il est vrai que le panier du marché nous apporte les nouvelles du dehors, mais il parle avec trop d'exaltation du gouvernement et du peuple. Aussi, avant-hier, un vieux pot en a été tellement bouleversé qu'il est tombé par terre et s'est brisé. Si je ne me trompe, le panier, avec ses idées trop avancées, appartient à l'opposition. « Tu parles trop, » répliqua le briquet. Et l'acier, se heurtant contre le caillou, en fit jaillir des étincelles. « Tâchons de nous amuser un peu ce soir. » « Oui, » reprirent les allumettes. « Causons et décidons quel est le plus noble de nous tous. » « Je n'aime pas m'entretenir de moi-même, » observa le pot de terre. « Il nous reste d'autres sujets de conversation. Je commencerai par raconter l'histoire de ma vie, puis chacun en fera autant. Rien n'est plus divertissant. Or donc, sur les bords de la Baltique, non loin des superbes forêts de hêtres qui couvrent le sol de notre chère patrie, le vieux Danemark a la bonne heure. Voilà un beau commencement !» s'écrièrent les assiettes. « Voilà une histoire qui promet. » « Là, » continua le pot de terre, « j'ai passé ma jeunesse dans une famille paisible. Les meubles y étaient frottés tous les 15 jours, le plancher lavé et les rideaux nettoyés. « Que vous avez une manière intéressante de raconter, » dit le balai. « On dirait une bonne femme de ménage qui parle, tellement tout cela respire la propreté. « Certainement, » appuya le sot. Et transporté de joie, il fit un petit bond, une partie de son eau tomba bruyamment à terre. Et le pot continua son récit, dont la fin était aussi belle que le commencement. Toutes les assiettes s'agitèrent joyeusement, et le balai prit quelques brins de persil pour couronner le pot. Certes, cette distinction dut vexer les autres, mais ils pensèrent « Si je le couronne aujourd'hui, il me couronnera demain. » « Dansons !» dirent les pincettes, et elles se mirent à danser. C'était curieux à voir, comme elles savaient lever une jambe en l'air. La vieille couverture de la chaise creva de rire en les regardant. « Nous demandons à être aussi couronnés !» dirent les pincettes, et on les couronna. « Quel genre ! » pensaient les allumettes. Ensuite, la théière fut priée de chanter, mais elle prétexta un refroidissement. C'était pur orgueil, car elle se faisait toujours entendre quand il y avait du monde au salon. Sur la fenêtre était une vieille plume d'oie dont la domestique se servait pour écrire. Cette plume n'avait rien de remarquable, si ce n'est qu'on l'avait trop enfoncée dans l'encrier. Du reste, elle en était fière. « Si la théière ne veut pas chanter, dit-elle, nous nous en passerons. Dehors, dans la cage, il y a le rossignol qui chantera sans se faire prier, quoiqu'il n'ait rien appris. Nous serons indulgents ce soir. Cette proposition me paraît assez inconvenante, répondit la bouilloire, sœur de la théière et chanteuse ordinaire de la cuisine. Pourquoi admettre parmi nous un oiseau étranger? Ce n'est guère patriotique. J'en fais juge le panier du marché. Franchement parlant, répliqua le panier. Je suis profondément vexé de passer ma soirée de la sorte. Il vaudrait bien mieux, ce me semble mettre l'ordre partout, chacun resterait à sa place et je dirigerais les divertissements. Vous verriez bien autre chose. Non, laissez-nous faire du tapage, dirent tous les ustensiles. Mais en ce moment, la porte s'ouvrit. C'était la servante, personne ne bougea plus. Personne ne souffla mot. Cependant, il n'y avait pas parmi eux de peau si mince qu'il ne se crût très capable et d'une origine très distinguée. Oui, pensait chacun d'eux, si on avait voulu me laisser faire, nous nous serions autrement amusés ce soir. La bonne prit les allumettes pour allumer son feu, ciel comme elles craquèrent et s'enflammèrent avec fracas. Maintenant, se disait-elle, tout le monde est obligé de reconnaître notre splendeur. Quelle lumière, quelle... Et ce n'était plus qu'un peu de cendre. Voilà une aventure charmante, dit la reine. Tout à l'heure, je me croyais transporté au milieu de la cuisine, près des allumettes. Aussi, vous épouserez notre fille. Oui, certes, ajouta le roi. Tu auras notre fille pour femme et à lundi la noce. » En le tutoyant, on regardait déjà le fils du marchand comme membre de la famille. La veille de la noce, toute la ville fut illuminée. On jeta dans les rues des brioches et des macarons, les gamins grimpaient sur les arbres, criaient « Hourra !» et sifflaient entre leurs doigts. C'était vraiment un spectacle magnifique. « Maintenant, se dit le fils du marchand, il faut que moi aussi, de mon côté, je fasse quelque chose. » Il acheta une quantité de fusées volantes, de pétards, toutes les pièces d'un beau feu d'artifice, puis il les mit dans son coffre et s'éleva dans les airs. Quelle détonation, quel éclat et combien de couleurs! À cette vue, tous les Turcs se mirent à sauter de joie. Si bien que leurs pantoufles volaient jusqu'à leurs oreilles. Jamais ils n'avaient vu un pareil phénomène, maintenant ils étaient bien convaincus que c'était leur dieu en personne qui allait épouser la princesse. Revenu dans la forêt, le fils du marchand se dit « Il faut que j'aille dans la ville pour apprendre l'effet qu'a produit mon feu d'artifice. » Ce désir était bien naturel. Que des choses singulières, on lui raconta. Chacun l'avait vu d'une manière différente, mais tous en étaient enchantés. « J'ai vu le dieu des Turcs, » disait l'un. « Il avait les yeux brillants comme des étoiles et une barbe semblable à l'écume des vagues. Il s'est envolé sur un manteau de feu, » disait l'autre. Et dans les plis du manteau, de jolis petits anges voltigeaient. Le jeune homme entendit encore plus d'une belle chose ce soir-là, la veille de sa noce. Enfin, il retourna dans la forêt pour se placer dans son coffre, mais nulle part il ne l'aperçut. Le coffre avait été brûlé, brûlé par une étincelle de feu d'artifice. Il n'en restait qu'un peu de cendre. Le pauvre garçon ne pouvait plus s'envoler ni revoir sa fiancée. Elle l'attendit sur le toit toute la journée. Elle l'attend encore. Lui, cependant, parcourt le monde en racontant des aventures. Mais aucune d'elles n'est aussi joyeuse que celle des allumettes.
Bonne nuit. Bonne nuit.